Totemic aujourd'hui, c'est une échappée avec Samy Bouajila. Il avait 24 ans quand il a joué au cinéma la première fois. Il va bientôt en avoir 60 et ça a commencé comme ça.
Au début, quand on était môme, les fourberies de Scapa en classe, qu'est-ce que c'était chiant et qu'est-ce qu'on n'y comprenait rien. Et on parlait pas de culture, c'était tabou. Pourtant, on vivait dans la culture parce que nos parents, en tout cas chez moi, la radio était ouverte et les grandes chanteuses arabes, on les écoutait et on nous les racontait, c'était bouleversant, quoi. On a des clichés sur les traditions, mais c'est de la culture. Et à la maison, elle était omniprésente et vivante.
Prendre le temps de trouver les mots et de s'accorder un silence, même si à la radio, l'idée est de parler tout le temps. Prendre le temps de leur remonter, puisque ça fait 35 ans que Samy Bouajila fait du cinéma, 35 ans qu'il a quitté chez lui, comme il dit, la banlieue de Grenoble, ses parents, son frère, ses potes. 35 ans de la vie d'un homme dont on a vu les cheveux blanchir et dont le sourire de gosse est intact. 35 ans d'histoire de France aussi, puisque certains des rôles de Samy Bouajila la racontent. Les années Sida avec les témoins d'André Téchiné, le rôle des tirailleurs dans la libération de la France avec Indigène de Rachid Bouchareb, ou l'histoire d'Omar Radad dans Omar m'a tué de Rochdi Zem. Samy Bouajila dit simplement Rochdi. Ils ont commencé en même temps, se sont retrouvés à jouer ensemble, ou l'un sous la direction de l'autre. Au début de la conversation qui suit, Samy Bouajila cite le film Drôle de Félix d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Je crois que c'est un rôle qui a donné le la de plusieurs personnages doux dans sa filmographie. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard donc, Samy Bouajila incarne un beau salopard dans la série Un prophète, diffusée en ce moment sur Canal. Il m'a donné rendez-vous dans un lieu haut de plafond, où la tisane est super bonne et où on n'ose pas parler trop fort.
Totemic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
On est face à un feu de cheminée, mais on peut pas franchement dire qu'on soit chez vous.
Ah non, voilà, j'adorerais quoi. Je sais pas si je ferais ce style-là, mais l'envergure me plaît quoi.
Parce qu'on est dans un palace parisien, autant le dire.
Oui, j'aime bien faire quelques interviews dans ce petit palace. Quand j'ai des interviews aussi, comment dire, prometteuses que celle-ci.
Oh, j'ai la pression là.
Non, c'est moi qui l'ai.
Comme là, on n'est pas chez vous, où est-ce que vous vous sentez le plus chez vous?
Alors, sans vouloir être prétentieux, quand je fais un film que j'aime, ben là, je me sens chez moi. Et pourquoi? Parce que, sans faire exprès, je me suis perdu derrière les masques de mes personnages. Et quelque part, inconsciemment aussi, j'en ai pris conscience, hein, bien sûr, au bout d'un moment, j'attendais juste le rendez-vous d'un film pour partir derrière un autre personnage et vivre. C'est ça le paradoxe et le problème. Là, c'était vraiment mieux que la vie, pour moi, hein, de l'intérieur.
Quand vous dites « je me suis perdu », mais qu'est-ce que ça veut dire? À quel point?
Ça veut dire que, peut-être parce que j'ai eu une tendance à être assez introverti, timide, je crois pas, mais quand même réservé, et que moi, quand j'ai mis le doigt dans ce métier là, d'acteur, d'abord sur un plateau et après derrière des personnages, j'ai explosé, quoi. Personnellement, hein, dans la vie, je me suis ouvert. J'ai eu des beaux rôles et je me suis oublié dedans. Drôle de Félix. Quand on a fini Drôle de Félix, je savais pas comment rentrer chez moi et comment sortir de cette expérience. Sur un plateau, il y a une sensualité. Et quand je dis une sensualité, on se livre à la caméra. L'objectif est d'une impudeur et d'une objectivité froide, je dirais. Et moi, j'aime me livrer. Brel disait la même chose. Dans son dernier concert, en noir et blanc, à l'Olympia, il est sorti de scène, il est en nage, la chemise est mouillée, ouverte, et je crois qu'il a un peignoir par-dessus. Et la journaliste lui dit « Pourquoi vous arrêtez ?» Et le gars, avec ses mots, à sa façon, je saurais pas, il a dit « Vous savez, quand je rentre, je vomis mes tripes. » Donc le gars, il s'oublie, il fait un don de soi. On fait don de soi. C'est quelque part comme ça que j'aime faire mon métier. On se perd dedans.
Et donc, quand c'est fini, vous avez du mal à vous en remettre?
Oui, Il y en a, ça les touche pas. Rajdi, il rentre et il sort, il n'y a aucun problème. Et on connaît l'acteur qu'il est, quoi. Oui, moi, ça me troublait fort. Et les personnages vivent une vie hors de l'ordinaire. Même si on fait une histoire d'amour réaliste, il y a de la passion dedans. C'est quand même fou d'être invité à tomber amoureux entre le jour 1 de tournage et le jour 30 avec une personne qu'on découvre, et tout ça devant un objectif. Et j'ai aimé. Et d'où je vais tirer mon carburant pour mes inspirations dans mes histoires d'amour. Et puis, à Action, on n'est plus nous. C'est la règle.
À partir de quel moment, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez perdu dans vos personnages, comme vous dites? Quel est le déclic qui vous a fait vous en rendre compte?
J'avais des dépressions. Je le savais même pas. Je soupçonnais même pas que ça s'appelait dépression. Je disais, non, c'est moi, c'est la vie, j'ai un coup de barre. Des trucs comme ça, quoi. Et puis, ça a pris de l'ampleur. Alors, quand je partais sur un tournage, je sais pas pourquoi, j'avais moins peur et j'étais moins déstabilisé de mes états. Parce que j'étais sur un plateau et j'étais pris en charge, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Comme les gamins quand on va à la colo ou... Non mais vraiment, quoi. Je me rappelle quand je jouais le film de Kechiche, La Faute à Voltaire. Et Abdel, il nous emmenait dans des contrées. Et nous, on se livrait, moi le premier, mais j'adore être emporté. Et Abdel, je me livrais corps et âme.
Motif de la demande d'asile politique. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Pourquoi avez-vous choisi la France?
C'est l'an 2000. La France passe sous 35 heures. Zebda fait un tube avec Tomber la chemise. Et La Faute à Voltaire, premier long métrage d'un cinéaste de 40 ans qui s'appelle Abdelatif Kechiche, sort sur les écrans. Sami Bouajila y est Djalel, un immigré clandestin tunisien qui se fait passer pour algérien en espérant obtenir l'asile politique. La Faute à Voltaire est l'histoire sentimentale et sexuelle de cet homme dans Paris. Il rencontre d'abord une jeune mère célibataire qui s'appelle Nassera. À l'écran, c'est Horatica. Extrait de La Faute à Voltaire avec Sami Bouajila, Virginie Darmon dans le rôle de Leïla et Horatica.
Et Leïla, tu te rends compte, il s'appelle Brahimi comme toi?
C'est pas vrai. Brahimi?
Oui.
Moi aussi, je m'appelle Brahimi. T'es d'où? T'es de Casa?
Non, d'Alger.
D'Alger? T'es pas marocain?
Bah, il y a des Brahimi en Algérie. Il y en a même en Tunisie.
Ah ouais, je savais pas. C'est pas grave, de toute façon, on est quand même cousins.
On est tous des cousins.
Eh ben, ça se fête, ça, non? Tu nous offres un coup?
Mais ça va, t'exagères, hein?
Non, non, je vous offre un coup, oui.
Et à un moment, j'étais complètement largué dans ce tournage. Et ça faisait 2-3 fois que je me dis, peut-être que je peux aller chez un psy. Et je crois qu'il y avait un espace, un moment, quelque chose de tabou, je pense. Mais j'ai dit, je vais y aller. Et sur le divan, quand je m'exprimais, je voyais que ma vie était confondue avec ma vie sur les plateaux et sur le tournage. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais hâte d'aller là-bas. Et c'est là que j'ai réalisé que, tout comme quand on est môme et qu'il y a une colo qu'on aime et qu'on est avec des amis, on part et on s'éclate et on s'oublie. Et les journées passent vite, c'est l'été tout le temps et on tombe amoureux. Voilà, c'est là où je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de distance entre ce que je devais jouer ou ce que je jouais et moi. Voilà. Et les dépressions, j'ai su après, parce qu'elles m'ont suivi, hein, même quand je... Après, je continue à aller en analyse. Ça m'a toujours suivi, sauf que maintenant, j'ai su sur le tard que... j'ai su sur le tard que je suis bipolaire, et j'ai réalisé que ce que j'appelais une dépression, où je me sabotais tout le temps, était lié à... Il y a deux phases dans la bipolarité, était lié quand j'avais des downs, quoi. Voilà. Et sur le plateau, j'adorais que la caméra soit là et que je me livre à la caméra, quoi. C'était génial.
Vous adoriez être regardé, donc.
Je vais vous dire un truc. Je me rappelle qu'à la maison, je faisais rire maman, ma mère, maman. Et je me rappelle quand on allait en vacances en Tunisie, comme il fait chaud dans la journée, on reste quand on rentre de la plage, on reste à l'intérieur de la chambre. Et ma grand-mère, Elle était assez corpulente, donc elle était toujours assise par terre, mais c'était elle la daronne. Alors ma grand-mère, comme elle était forte, elle cousait ses caleçons pour elle, quoi. C'était des gros caleçons comme ça. Moi, je rentrais dedans, j'étais tout maigre. Je rentrais dedans, mais je pouvais rentrer dans une seule jambe. Ça nous faisait rire, mon frère et moi, et les cousines aussi. Et je pliais le truc, la deuxième jambe, je la mettais autour, je pouvais bouger dedans. Et comme ils écoutaient beaucoup de musique arabe et du folklore, j'y monte le son. Et je me suis mis à danser sur le folklore. Mais tout le monde a ri. Et ma grand-mère, en larmes, elle pleurait de rire. Je kiffais ça, quoi.
C'est un moment où vous vous êtes dit, c'est vraiment bon d'être regardé, quoi.
Ah, mais à fond, putain, oui, effectivement. J'aime regarder.
Regardé.
Oui, être regardé, pardon, le lapsus aussi. Et j'en reviens à la maison, je faisais rire maman, ouais, c'est vrai.
Dans son dernier rôle, il ne sourit pas. Son visage est même impassible derrière des lunettes fumées bleues. Samy Bouajila est un homme d'affaires véreux qui devient parrain de la prison des Baumettes dans la série Un prophète, diffusée sur Canal+, jusque mi-avril. Dans le film de Jacques Audiard, le personnage était corse et s'appelait César. Dans la série, créée par Abdel Raouf Dafri et Nicolas Peufailly, deux des scénaristes du film d'Audiard, ce personnage s'appelle désormais Massoud Djebari. Et l'action est transposée à Marseille, où un immeuble vient de s'effondrer. Dans le premier épisode, Djebari négocie avec des responsables de la mairie, tout aussi véreux que lui. Extrait avec Samy Bouajila et Guylaine Londez.
Je veux bien aller en prison et jouer le sale arabe de service. Quand je ressors, c'est totalement blanchi. Et pas le moindre doute sur mon innocence.
Ton avocat a déjà examiné les preuves que nous avons fabriquées. Des courriers antidatés que tu aurais envoyés à un service de la mairie pour lui signaler que le sol sur lequel repose ton immeuble rue de la Palue était gangrené par des infiltrations d'eau.
Ok, ça signifie
que vous êtes responsable de l'entretien de votre immeuble, mais que les sols et les circuits d'eau appartiennent à la mairie. Vous êtes totalement exonéré de la moindre responsabilité dans l'effondrement de l'immeuble.
Le juge est avec nous. Disons que c'est grâce à moi qu'il est là où il est et il ne l'a jamais oublié. Mais tu devras rester 3 ou 4 mois en prison, que ça n'ait pas l'air d'une parodie de justice.
Ça vaudra pour toi aussi, après ?
Un vrai serpent.
Alors que vous n'avez pas du tout un physique menaçant.
Non, mais c'est ça, justement. J'ai toujours été quelqu'un de colérique. Et puis, y a plaisir à jouer le méchant. Moi, je me régale à jouer le méchant. Vous citez le personnage d'un prophète qui s'appelle Massoud Djebari. Comment je le construis, celui-là ? Il fait peur, en gros. Il y a d'autres qui ont des physiques. Qui jouait le personnage d'un prophète dans le film ? Nils Sarstrup. Nils Sarstrup, quand l'ascenseur s'ouvre et qu'il est dedans, on fait « Oula, pardon, excusez-moi, je vais où, là ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Il dégage quelque chose. Bon, moi, l'ascenseur s'ouvre. Si je suis pas dans un personnage, bonjour, ça va, tenez, allez-y. Bon, ça dégage pas la même chose. Mais c'est génial. Pourquoi ? Parce que on peut être Vislard et Massoud Djebari.
Sans en avoir l'air, c'est encore pire.
C'est ça. Djebari, au départ, il a mon physique. Et puis il a ma voix. Donc faut l'amener doucement. Surtout avec le temps, je me suis décomplexé à fond. Et j'en ai croisé des méchants. Je prends mon pied.
À venir, une jeune femme pleine de victoire, c'est Théodora, avec des mythos.
Pourri, je m'appelle Natalia. Il me dit je t'aime, il me parle de familia. Il me dit de la marijuana. Si tu veux du stress avec lui, viens voir où il y en a. Mais on m'appelle Madame Caillou. Cœur rebelle et sans cahier, ça compte pas peine. Faire foutre et s'y frappe la foudre. dirait d'aller se faire foutre.
Il a un sourire en coin et les pieds sur un bureau de fortune sur l'affiche du film. Ça s'appelait La Thune, long métrage de Philippe Galland et premier rôle de Samy Bouajila au cinéma. L'histoire d'un gamin de banlieue qui se lance dans le business. Nous étions en 1991.
Moi j'ai lu le scénario, je me dis mais attends, on rigole quoi. Ok, ben, qu'est-ce que je fais? Il n'y avait rien à faire. J'ai dû peut-être avoir un peu le trac au début, mais ce que raconte le personnage, je le connais archi par cœur.
C'est-à-dire ?
Ben, un petit gars de banlieue qui magouille un peu et qui veut s'émanciper. Et je trouvais que c'était trop poli d'ailleurs de comment c'était écrit. C'était un peu fleur bleue, quoi. J'étais pas un bagarreur, je vivais dans les quartiers, punaise, quand ça chauffait, je me disais, bon, alors je peux aller par là ou par là. Voilà, mais on était en bande et. Là, au début, il fallait faire ses armes, mais bon, j'en ai bien chié, quoi, je dois dire. Mais après, je me suis aguerri, parce qu'on passait du temps. Alors, on avait des éducateurs qui nous emmenaient un peu partout. Ils étaient passionnants, parce que c'est des anciens 68 arrêts. Ils avaient une sacrée culture et un savoir-vivre vraiment chouette, quoi. C'est là où j'ai commencé à découvrir la culture, en fait. D'abord le spectacle, le théâtre vivant, les corps dans l'espace, etc. Et ensuite, la lecture.
Mais là, vous m'avez donné rendez-vous donc dans un grand hôtel, dans un palace parisien, et on est dans la bibliothèque de ce palace. Est-ce que vous, justement, vous êtes allé vers le théâtre et vers le spectacle par le biais du texte ?
Je lisais pas, on ne lisait pas chez moi. Et à l'école, je n'ai retenu que Les Fourberies de Scapin et L'Appel de la Forêt de Jack London. Donc j'y reviens. Quand je suis rentré au Conservatoire Régional de Grenoble, je n'avais lu que ces deux livres. J'allais au théâtre à la Maison de la Culture, quelques temps avant que je rentre au Conservatoire. C'est d'ailleurs en voyant les autres jouer que ça a vraiment révélé mon envie, et j'ai su qu'il y avait un conservatoire à côté. Comment ils occupaient l'espace, tous ces corps, comment ils parlaient, au début c'est un peu gênant. Mais après, on comprend qu'il y a, c'est comme un son, c'est comme une musique. Il faut accepter les codes pour entendre. Plus je m'imprégnais de ça, plus j'ai commencé à lire. Et alors là, il y a un autre monde et une autre étape de ma vie qui a commencé.
Donc au départ, c'était par un truc physique de faire du spectacle.
Oui. Oh. Si vous voulez, le...
Vous voulez rappeler, non? Ça va?
Non. J'essaie de l'éteindre.
Donc, okay.
En tout cas, je vais couper le son. Voilà. C'est par le théâtre que j'ai commencé, parce que avant de rentrer au conservatoire, pour tout vous dire, je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire dans un atelier théâtre. D'où ça me sort, j'en sais rien. Et ça m'a sauvé, parce que j'ai vu que j'avais un corps expressif, je dois dire, maintenant je peux le dire, et dynamique, qui avait une énergie. C'est par le corps que j'ai senti que je pouvais m'exprimer, que j'avais un potentiel, et voilà.
Alors, ça me conduit à vous faire écouter un son, un extrait d'interview qui a eu lieu dans Totémic, de Roche Dizem.
Ah, c'est pas mal.
Comédien avec qui vous avez joué. Je crois que vous avez été ensemble pour 6 films, dont certains dont il était réalisateur. Ouais. Et je lui demandais comment lui, il lui était venu l'idée de devenir comédien. Et voici sa réponse.
C'était tabou, je crois, à l'époque.
Tabou.
Ouais, absolument. Ouais, tabou de penser qu'on puisse être acteur. Ouais. En tout cas, moi, j'avais honte de le dire. Et si quelqu'un autour de moi l'évoquait, c'était toujours en plaisantant. C'est quelque chose qu'on s'interdisait, l'accès au théâtre ou au cinéma. C'est parce que nous n'avions pas de modèle. Un acteur, c'était forcément quelqu'un de beau, de blanc. En plus, c'était quelque chose qu'on avait complètement assimilé. Je crois que même mes camarades, mais c'était pas méchant et je leur en veux pas. Ils m'ont rien. J'espère que t'as pas quand même. Comme idée de devenir acteur un jour, c'était pas pensable.
Donc vous l'avez planqué, au départ?
Ou alors je faisais croire que c'était comme une sorte de... comme si j'allais au patronage un peu. Vous vous rappelez à l'époque quand on montait des pièces comme ça, mais pas dans l'idée de faire carrière un jour en tout cas.
Alors oui, vous voulez que je réponde ou que je m'exprime par rapport à...
Ouais, moi, si ça vous fait réagir.
Complètement.
Le début de ce qu'il dit, que ce que dit Rushdie, hein, on se connaît par cœur tous les deux. Oui, je me reconnais dans ce qu'il dit, qu'on sentait que... Enfin, ça faisait peur ou je sais pas quoi. C'est un peu ce que je disais.
Il dit c'est tabou. C'était ouais, tabou.
Alors moi, nous non. Vous savez pourquoi? J'en reviens à ces éducateurs. Mais ils nous ont débridé l'esprit. Et puis quand je vous dis qu'il y avait une culture... Le gars qui s'est occupé de nous, qui habitait une ferme dans le Vercors, et nous, avec la bande qu'il a connue tout petit et adolescent, on est resté là-haut, on passait notre temps avec ce mec. Il a un instinct de folie. Mais quand je dis qu'il a une culture autodidacte, ce gars, c'est un bûcheron. Mais il sait tout. Et il nous a fait découvrir mais tellement de choses.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
C'est lequel?
Qui est un tube oui et non, quoi, hein, quand même.
Bon,
bah, alors, enfin, c'est un tube ancien.
Il est magnifique. Ça, c'est du temps des éducs, ça.
Le morceau date de 1969, mais en cherchant, j'ai découvert que le poème est de 1856, puisqu'il figure dans les Contemplations de Victor Hugo sous le titre « Vieille chanson du jeune temps ». Un siècle plus tard, Julos Bocarne l'a mis en musique et l'a intitulé « Je ne songeais pas à Rose ».
Je ne songeais pas à Rose.
Mais juste, il faut écouter ce qu'il chante.
Rose au bois vint avec moi.
C'est très beau.
Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distrait. Je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire après.
Il raconte cette histoire d'amour, on la vit, cette histoire d'amour. Moi, je me reconnais quand, que ce soit en Boom ou ailleurs, il faut lui dire, tu veux sortir avec moi? Oh là là. Ou alors, il faut lui dire, je t'aime. Ou alors, tu lui dis, est-ce qu'on peut s'embrasser? Et la première fois où on m'a dit oui pour s'embrasser, j'étais mal, alors j'ai fait un bisou. Et alors après, on allait se cacher, et on disait, mais on fait un baiser américain, c'était du temps de Grease et La fièvre du samedi soir. C'est quoi un baiser américain? Alors l'autre, elle m'ouvre la bouche, elle met ses lèvres sur la bouche, et il y a sa langue qui rentre dans ma bouche. Je suis resté en apnée. J'ai dit, mon Dieu,
je défie ses chaussures et mis d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, voyant parfois sourire et soupirer quelquefois.
Vous voyez la culture et l'explosion qu'on a eue, nous, c'est à 16 ans qu'on a découvert tout ça, quoi.
J'y pense toujours.
Et à la ferme, on mettait ça. D'un coup, on passait à Bruce Springsteen ou à, je ne sais, à Fela Kuti. Vous voyez, mais ça, dans la route, on mettait ça. Et le fameux éduc dont je vous parlais... Bob, son vrai nom Bou Abdella, on l'appelait Bob, le bûcheron, c'est lui qui nous a emmenés dans ces concerts-là. C'est grâce à lui qu'on a découvert tout ça. C'est comme ça que j'ai découvert la chanson française en particulier, Lavilliers, Higelin, et d'autres, même Brandu Hardy, des trucs comme ça, c'est lui qui nous faisait écouter ça. L'hiver, on était dans le salon avec une cheminée ouverte, il n'y avait que de la musique, c'est lui qui m'a fait découvrir Manu Dibango, Nasser Aïwen, ce groupe marocain que tout le monde a priori connaît quand on écoute de la world music, qui est des musiques de trance, qui sont des musiques de trance, et on allait voir des concerts en live, encore une fois, je le dis. Et la culture, j'en ai plus eu peur. Parce que j'ai été moi-même tout seul à la maison de la culture. Je me suis dit, waouh, voir...
Mais pourquoi vous en aviez peur, alors?
Ben, comme dit Rushdie, effectivement, au début, quand on était môme, c'était tabou. Nous, elle nous faisait lire les fourberies de Scapin en classe. Qu'est-ce que c'était chiant et qu'est-ce qu'on n'y comprenait rien. Et on parlait pas de culture. Pourtant, on vivait dans la culture, parce que nos parents, en tout cas chez moi, la radio était ouverte et... Et les grandes chanteuses arabes, on les écoutait et on nous les racontait. C'était bouleversant, quoi. On a des clichés sur les traditions, mais c'est de la culture. Et à la maison, elle était omniprésente et vivante.
Donc, ce qui vous faisait peur, c'était une sorte de culture plus académique, on va dire.
Comme il dit, pour les Blancs. Mais il le dit lui-même. Non, on ne le faisait pas, on croyait que c'était pour les Blancs. Mais c'est pour ça aussi que j'avais un peu peur et un peu honte d'aller dans ces espaces.
Donc, en fait, il a fallu contourner.
Ah oui, contourner, bien sûr. Et puis trouver des postures et...
Des postures.
Bah oui, pour s'adapter, voilà, enfin, j'en sais rien. Quoi.
Exemple.
Bah, exemple, j'ai déjà repéré où était le conservatoire. Je savais pas comment y aller, comment rentrer, quoi. Mais j'ai été plusieurs fois repéré, et je me dis, est-ce que j'attends que tout le monde rentre, mais ils ont un instrument, ou je sais pas quoi, je me disais, est-ce que ça va, je suis bien habillé ou pas. Et je les entends sortir avec une énergie de folie. Et les filles, elles disent, ouais, mais tu sais, Jean-Michel, quand t'as fait ça, mais non, faut, bah oui. Et je me dis, je vais mettre au bout du couloir, et je vais attendre qu'ils sortent. Comme ça, le prof, quand il va sortir, je vais le repérer, celui-là. Il doit être différent des jeunes. Et à un moment, il y a une voix derrière moi, une grosse voix. Je me suis retourné, il avait une grosse voix d'acteur. Mais il avait un brin d'accent. Et il s'appelait Abbesse Pharaon. Tu peux y aller, Sam, le mec s'appelle Abbesse Pharaon.
Abbesse Pharaon, il avait quel accent alors ?
Ben, l'accent de mon père, un peu. Lui, il était algérien. Ça m'a rassuré, mais il faisait peur et on a toujours le respect de ces personnes-là. Et il me dit, je crois qu'il jouait avec moi. Il dit, qu'est-ce que tu viens faire là ? Avec une voix fluette. Je dis, ben, je voudrais m'inscrire au concours. Et il me dit, mais c'est trop tard. Les inscriptions sont terminées. Je dis, d'accord. Je m'apprête à sortir. C'est pour ça que je dis, il devait jouer avec moi. Il me fait, écoute, prépare une scène classique, une scène contemporaine et une impro. Viens tel jour, je te ferai rentrer à l'audition.
C'est comme si vous étiez dit, bah, moi aussi je peux. C'est le rencontrer lui, c'était...
Rassurant. C'était rassurant. Et c'est après que j'ai découvert l'acteur qu'il était et le parcours qu'il a.
Abbesse Pharaon était un acteur et dramaturge algérien. Après avoir été au conservatoire de Sidi Bel Abbès, il fut élève à l'école du Théâtre National de Strasbourg. Il a joué dans des mises en scène de Jean d'Asté, Georges Lavaudant, Antoine Vitez, avant de devenir enseignant lui-même au Conservatoire Régional de Grenoble. Abbesse Pharaon est mort en 2003. Feel like it used to. The sunlight feels better. Well, just be your light and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. Bring the rain, just releasing your The Power par l'une des voix de la soul américaine Curtis Harding, avant la suite de Totemic avec Sami Bouajila, qui interprète Massoud Djebari, Malfra dans la série Un Prophète. Est-ce que les Césars que vous avez obtenus, celui pour un second rôle dans Les Témoins de Téchiné et celui pour Un Fils de Mehdi Barzaoui, où là vous avez eu le César du meilleur acteur, est-ce que ça a compté?
Bien sûr que ça a compté, mais énormément.
Ça a compté dans quel sens alors?
Dans le sens où, je vais parler pour moi encore une fois, mais je pense que Rushdie disait la même chose, quand il y avait les Césars, on se protégeait. On se disait, bon, voilà, ouais, les Césars, ok. Genre, c'est pas pour nous. Pourquoi? Parce que, oui, bien sûr, on était sélectionnés dans les présélections quand elle était tout mauvais. Mais attendez, pardon. On a été chanceux, nous, parce que il y avait des portes qui s'ouvraient quand on démarrait. Mais quand même, on s'en est mangé quelques clichés.
Ça, c'est vous parlez du début des années 90.
Ouais. Alors, c'était encore des clichés inconscients. On a un inconscient collectif. On a un héritage d'un inconscient collectif. Tout comme moi, j'ai pu penser que c'est normal que j'allais faire le petit gars, le mécanicien. Mais fallait travailler quand même, merde. Fallait bouffer. Et donc, il a fallu que je m'affranchisse de ça.
Vous affranchir de quoi?
De mon complexe. Et du regard de l'autre. Et maintenant, par exemple, jouer un Massoud Djebari, je kiffe. Parce que je m'arrête plus à des clichés. Je les subis plus. Et s'il y en a, je les transcende.
Par rapport à ça, finalement, les choses sont aussi allées dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même une vision de la situation qui est assez sombre, concernant justement les discriminations, le racisme, disons-le, qui existe encore, bien sûr. Mais il y a eu quand même des avancées dans quand même un certain nombre de films, que le personnage s'appelle Samir ou qui s'appelle Philippe. On s'en fout.
Enfin, en tous les cas,
ça, c'est
ce que j'ai la chance de faire. Et des fois, si Samir, il a tous les travers que je refusais avant, ils me servent maintenant. Mais juste, parce que notre discours ou le mien laisse entendre que c'est bon, la vie est belle, etc., etc. Quand vous dites que les choses ont avancé et ont changé, ce qui sous-entend que la société est à notre image, enfin, si on regarde ceux qui nous gouvernent, justement, le gouvernement, est-ce qu'il y a de la mixité dedans? Parce qu'il devrait être à l'image de son peuple aussi, enfin de ses citoyens. Non, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a de la mixité dedans? Mais peut-être qu'il faut le temps pour, mais le temps, il était long.
Sami Bouajila monte sur la scène de l'Olympia pour recevoir le César du meilleur acteur pour son rôle dans Un Fils de Mehdi Barzaoui.
Quand j'ai commencé le tournage d'Un Fils qui parle de la filiation, je venais juste de raccompagner mon père sur sa terre natale, dans laquelle il repose désormais. On a tourné le film dans le désert de Tataouine, à quelques kilomètres de la frontière libyenne, où dans les années 40, mon père, alors âgé d'une dizaine d'années, traversait clandestinement cette même frontière avec son père pour rejoindre le village natal de mon grand-père que je n'ai jamais connu. Toute sa vie, il m'a raconté ce périple. Jusqu'à la fin, ça revenait. Il me racontait le désert, les passeurs, la fatigue et surtout la stupeur de se réveiller un matin sans son père qui, pour aller plus vite et craignant les rafles, l'avait laissé au bon soin d'un passeur jusqu'à son retour. En y repensant aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout ceci m'habitait.
Est-ce que vos parents ont vu vos films, Sami Bouajila?
Non. Maman, elle a vu... Papa, non.
Vous dites papa et maman, vous?
Ouais, peut-être parce que papa est parti et que maman est perdue dans un Alzheimer, je ne sais quoi. Et puis que pour tout vous dire, j'ai quitté ma maison en 90 et que là, peut-être à cette étape-là de ma vie et celle de mes parents, ben, il me manque profondément. Et nous, on a grandi, on n'était que deux enfants, donc à quatre. C'était plus que fusionnel. C'était comme dans les comédies italiennes, voilà. Bon, on va dire... Bon, bref, ma mère et mon père...
Non, mais dites comme vous voulez, remarque juste ça.
Non, bah, voilà, bon. Alors, maman, elle n'a jamais été au cinéma en France, maman. Elle voit un Navarro à la télé, elle aimait bien Navarro. Et je lui ai dit, j'ai fait un Navarro. Elle me dit, ah, tu me dis quand ça passe? Je dis, ben, ça passe. Elle a vu Navarro, je meurs à la fin, elle s'en est jamais remise. Et maman, elle me dit, oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ils t'ont tué? Je dis, maman, c'est Navarro, c'est du cinéma, tu vois bien, regarde celui-là. Oui, mais faut pas faire ça. Genre, alors là, c'est ça, ça me touche plus, genre, faut pas jouer avec ces choses-là. Faut pas faire
ça. Ça va t'attirer la poisse.
Faut pas faire ça. Faut pas faire les drogués. Faut pas. Je dis, maman, c'est les meilleurs rôles. Elle me dit, oh là là, laisse-moi. Je dis, maman, regarde plus. Regarde pas les films. Voilà. Elle dit, d'accord. Elle a jamais regardé. Alors, papa, il allait pas au cinéma, alors que c'est lui qui nous a fait découvrir le cinéma. Papa, quand il était à la retraite, mis à part ouvrir la mosquée, il faisait plus rien, quoi. Il y avait un complexe qui s'est ouvert dans le lieu où papa et maman habitaient. Un complexe de 5, 6, 7, 8 salles, j'en sais rien. Indigène passait dans un de ces complexes. Et ça fait un moment, plusieurs jours, il est resté 2-3 semaines, j'en sais rien.
Donc, pour rappel, Indigène de Rachid Bouchareb, ou d'ailleurs, qui vous a permis, avec Jamel Debbouze, avec Roche Dizem,
avec la série Bernard Blancamp.
Voilà, d'obtenir le prix d'interprétation masculine collectif à Cannes.
Oui, la palme. Ça, c'était la fête déjà.
Et votre père l'a vu alors, ce film-là?
Alors non, papa, il passe et il repasse. Il veut pas rentrer dans. Enfin, il n'a même pas le réflexe de rentrer dans le cinéma. Et il y a un vigile. Il attrape papa, il dit « Monsieur Boisy, là, venez s'il vous plaît ». Et l'installe dans la grande salle. Le temps passe, et un jour mon frère me dit « Tu sais Samy, papa il a vu Indigène ». J'ai dit « T'es sérieux? Pourquoi il m'a rien dit ?» Donc un soir, je suis avec papa et je lui dis « T'as vu Indigène ?»« Oui, j'ai vu Indigène ». Je dis « Mais papa, pourquoi tu m'as rien dit ?»« Bien non, c'est bien, je sais même pas s'il m'a dit « T'es bien ». »« C'est bien ». Mais il connaissait cette histoire. Il dit, mais tu sais, c'est les tirailleurs, c'est l'histoire des tirailleurs et tout ça et tout ça. Je dis, ça t'a plu? Il m'a dit, ouais, c'est bien. C'est tout, on en est resté là. Par pudeur, je pense, par pudeur, sincèrement.
Indigène, réalisé par Rachid Bouchareb, sort en 2006. Le film se déroule en 1943 et suit 4 soldats, 3 Algériens et un Marocain, qui découvrent l'Europe en même temps que la guerre et l'émergence d'une conscience politique. Samy Bouajila y interprète le capitaine Abdelkader.
Écoutez mes frères, écoutez. Quand je me suis engagé, j'ai écouté ce qu'a dit le général de Gaulle. Il a dit que la France combattait pour la liberté dans le monde. J'ai pensé qu'à la guerre, on gagnerait les mêmes droits que nos frères d'armes français. On se bat tous ensemble, contre Hitler, pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Et bien il serait temps qu'ils nous en donnent un peu maintenant, de cette liberté, de cette égalité et surtout de cette fraternité. On est en train de changer le destin de la France.
Et donc, le film a cartonné, puis c'était un film qui, dans l'air du temps, quoi, parce qu'il racontait, c'est marrant, ça a fait du bien, quoi. C'était bien qu'on démystifie certaines choses. Et qu'on découvre une autre histoire qu'à nous, on nous a jamais racontée. Alors qu'il faut pas oublier que la libération, l'armée française, après la résistance, qui s'est vite exilée, et il y avait quelques niches de résistance, en France, partout en France, et même dans les massifs, l'armée française a puisé ses hommes dans les colonies. En Asie, en Afrique du Nord, en Afrique noire. Et le débarquement, la libération de la France, ça a commencé en Provence. Avec des tirailleurs, c'était que des tirailleurs. Ils ont libéré la Provence et ils ont été à Monte Cassino. Et après, ils sont remontés dans les Vosges et en Alsace.
Comme vous parliez de votre père, il y a une pièce que vous avez interprétée, seule en scène, qui s'intitule « Un prince », qui est un texte d'Émilie Frèche.
Oui.
Qu'est-ce que représente ce texte pour vous?
Peut-être à ce moment de ma vie, à ce moment où papa et maman sont perdus dans un Alzheimer où on ne sait plus comment communiquer avec eux et eux avec nous, et ceux qui vivent ça savent de quoi je parle. L'entourage, quand ils voient ça, mais le monde s'arrête. Parce que c'est de la science-fiction. D'abord, on est dans le déni, puis dans la colère, et on ne sait plus, on est désemparé. Et on essaie de les aider, mais on ne sait plus comment. Et je jouais un autre texte à ce moment-là, au Petit Saint-Martin, avec Audrey Dana. Et à la fin de la première, il y a une personne, j'ai appris après que c'est Émilie Frèche, en fait. Il y a Émilie Frèche qui vient et qui me tend un livre en me disant « Samy, tiens, j'ai écrit ça en pensant à toi. » Mamma mia. Ok, je prends le livre, mais à ce moment-là, j'étais dans de grosses dépressions. D'abord parce que ce qu'on traversait, mon frère et moi, avec Eddie, on ne savait pas comment faire, et moi, j'étais sur les routes. Et ensuite, j'ai découvert après, parce que c'est ma bipolarité qui me jouait des tours. Et donc, j'étais vraiment mal, quoi. Et j'ai mis longtemps à ouvrir le livre. Pourquoi j'ai joué un prince? Parce que, d'abord, j'étais interpellé par le rapport du père à son fils. Je ne sais comment Émilie a été inspirée, mais il y a eu la grâce, là. C'est le personnage d'un père, la mémoire d'un père, qui se confond avec celle de son fils. Et vice-versa. Pourquoi maintenant il ne me sort que le mot papa et maman? Parce que plus ils vont vers la fin, et plus ils sont omniprésents. Et plus je retrouve dans mes personnages, je mets du papa, je mets comment il parle, je mets comment il bouge. Dans un prince, j'ai mis son attitude de la fin, et je l'ai mis sans prétention, avec justesse.
Venus as a Boy par Björk. Blanche, Samy Boisgila a sorti un roman de son sac. Titre et nom de l'auteur écrit en bleu sur la couverture, Yoga d'Emmanuel Carrère. Samy Boisgila l'a ouvert à un chapitre intitulé Martha.
C'est un inconditionnel de cette pianiste Martha Argerich. Elle pose les doigts sur le clavier, elle commence à jouer. J'ai assez écouté la polonaise héroïque ces derniers temps pour la reconnaître dès la première mesure. Second plan. Les doigts courent sur le clavier. Il n'y aura que trois axes. Le troisième est sur le visage de la pianiste de face. C'est une très jeune femme d'une beauté stupéfiante, la beauté stupéfiante du jeune Delon dans Rocco et ses frères. Elle est assise, je la reconnais immédiatement, car c'est une de mes pianistes préférées. Je ne suis pas le seul. C'est Martha Argerich. Elle doit avoir 20 ans, peut-être même moins. Elle a déjà cette crinière noire libre, jamais attachée, qu'elle aura toute sa vie. Son nez est droit, ses lèvres gonflées, ses paupières baissées et lourdes. Elle est sauvage, sensuelle, intense, indomptée, géniale. Je l'écoute, je la regarde, en me demandant pourquoi, avant de partir, Erika m'a envoyé le lien de cette vidéo. Sans autre commentaire que, comme objet, du mail, 5 minutes, 30 secondes. Le curseur indique que la vidéo dure 6 minutes 40 secondes. Je connais maintenant par cœur la polonaise héroïque, je peux la dérouler dans ma tête, d'un bout à l'autre, ce qui me laisse tout le loisir de m'émerveiller au jeu de Martha Argerich, très rapide. 6 minutes 40, plus qu'Horowitz, moins que les autres, mais jamais pressé. Incroyablement puissant et aérien. Voir courir ses doigts sur le clavier, c'est un ravissement. Mais rien à côté des expressions qui parcourent son visage au fil de la musique. Elle est dans une espèce de transe, alanguie, suspendue. L'indication de Chopin pour ce passage est smorzando, une indication très rare qui signifie « en s'éteignant ». Martha Argerich s'éteint en direct en laissant perler ses notes de rêve, mais elle sait, et nous savons qu'à cet endroit, le grand thème de la polonaise va revenir et que cet éclatant retour est le plus grand moment de l'œuvre. On est à 5 minutes 15 secondes, 15 secondes avant les 5 minutes 30 secondes qu'Erika m'a spécialement indiqué. Je me demande ce qui va se passer, et voilà ce qui se passe. Martha Argerich est portée par ce retour du thème, elle le prend comme un surfeur prend la vague. Elle s'y abandonne totalement, elle ne tient plus le cadre. Elle donne un coup de tête qui la fait sortir vers la gauche avec sa masse de cheveux noirs. Elle disparaît un instant et quand elle revient dans le cadre, après son coup de tête, elle a un sourire. Et alors là, il dure très peu de temps ce sourire, sourire d'une petite fille, ce sourire qui vient à la fois de l'enfance et de la musique, ce sourire de joie pure. Il dure exactement 5 secondes, de 5 minutes 30 à 5 minutes 35, mais pendant ces 5 secondes, on a entrevu le paradis. Elle y était, elle, 5 secondes, mais ces 5 secondes suffisent. En la regardant, on y a accès. Par procuration, mais accès. On sait qu'il existe. J'ai ces excès-là quand j'aime quelque chose.
La toute dernière séquence, c'est une séance photo.
Ah oui.
Ouais. Qu'on va prendre comme ça, en deux-deux.
Ça existe encore, hein, cela.
Et vous voilà.
Oh là là. C'est toujours dur de se voir, hein.
Mais vous savez que vous êtes beau, non?
Oui.
Ah. C'est bien de le reconnaître.
Ouais, mais j'ai mis du temps à l'assumer, quoi. Quand on me le dit comme ça, j'ai encore un peu de pudeur. Mais oui, je suis beau. Je sais que je suis un beau mec.
Vous avez raison, pas de fausse modestie, quoi.
Ah putain, ouais.
Merci beaucoup, Samy Bouajila.
Merci à vous, Rebecca. C'était un plaisir.
Samy Bouajila et Mamadou Sidibé sont à l'affiche de la série Un prophète, créée par Abdel Raouf, Dafri et Nicolas Peufaillé. Les 8 épisodes sont diffusés jusqu'au 13 avril sur Canal+, et mis en ligne sur le site de la chaîne au fur et à mesure. Stéphane Le Guenec réalise Totemic. C'était avec Laurent Baudouin et Théo de Labaudère ce matin. Perrine Malinge coprogramme l'émission. Ilinka Negulesco trouve son et documentation. Et JB Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, je vous emmène au resto avec Sandrine Kiberlin.